bête de mouchoir tendu. Et ça suffit à rebondir, en fait. Pour certains, c'est le moment de la journée, c'est le seul moment de la semaine où, en fait, on parle pas de bouffe, déjà. Finalement, c'est très peu. On parle plus de nos émotions. Et c'est un moment, pour certains, où ça leur permet de pas faire de crise, en vrai. C'est des gens où il y a une relation et la convention, tout le monde m'en parlait, je comprenais pas trop. Moi, mon groupe me convient, les filles sont sympas, c'est super. Et là, j'ai découvert d'autres amis où j'ai vraiment envie de venir les revoir juste pour faire un coucou, juste pour le plaisir de se voir. On rencontre des gens, on discute avec des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés dans la vie, en vrai. C'est surtout ça, en fait, c'est d'apercevoir qu'on a ce point commun. Et puis, vous pouvez le constater, il y a des gens, on peut pas imaginer une seconde qu'ils soient malades. Ça se voit pas physiquement.
De l'écoute et des conseils, des gens à appeler quand ça va pas. C'est-à-dire, il est 22h, t'as toujours pas mangé, t'arrives pas, t'es bloqué devant ton assiette de pâtes, tu prends ton téléphone, t'appelles et puis tu parles pendant 15 minutes, 20 minutes avec une amie qui t'aide à finir ton assiette. Ça m'a apporté des étapes de rétablissement, notamment la première étape qui est accepter que je suis malade. Moi, je savais que j'avais une maladie, mais pas que j'étais malade. En soi, ça a l'air d'être la même chose, mais non, je pouvais être plus forte que ça. Si je veux, demain j'arrête, c'est comme la clope, quoi. Demain j'arrête, hein, c'est bon. C'est beaucoup plus complexe que ça. Ouais, la première étape, elle est importante.
Eh bien, j'y trouve de la bienveillance. Ça m'a permis de me réconcilier avec moi-même d'une certaine manière. J'y trouve du soutien parce que je suis plus seule. Et de la sécurité émotive. Ça m'a sauvée, ça m'accompagne et ça me permet de me sentir bien. Puis ça me donne un sentiment d'appartenance qui me permet de me détacher des diagnostics qu'on m'avait posés jusque-là. Et avec un grand sentiment d'appartenance à une famille. Au début, j'étais surprise quand on appelait les autres personnes des amis. Je me suis dit, mais c'est pas des amis, comment est-ce que je vais discuter avec eux? En plus, on peut demander leur numéro de téléphone, mais c'est incroyable. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'est des amis sur qui je pouvais compter, à qui je pouvais téléphoner dans les moments durs, et même dans les moments heureux, quand j'avais juste envie de parler. Donc ça m'a beaucoup soutenue.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau volet de Repartons. Aujourd'hui, l'émission nous emmène à l'auberge de jeunesse de Rouen qui a vibré pendant 2 jours au rythme d'un événement hors du commun, la convention de l'association ABA, Anorexique Boulimique Anonyme. Pendant 48 heures, des hommes et des femmes venus de la France entière ont quitté leur écran et leur visioconférence pour se rencontrer en vrai. L'objectif, rompre l'isolement que creusent souvent les troubles du comportement alimentaire. Entre réunions thématiques, partage d'expériences et moments de rire, j'ai pu plonger au cœur d'une solidarité qui ne se décrit pas, mais qui se vit. Nous reviendrons notamment sur ce moment charnière, le dîner partagé, une épreuve pour certains, un acte de courage collectif pour tous, qui s'est transformé en une véritable célébration lors d'une soirée dansante et d'un karaoké libérateur. Ici, on ne juge pas, on s'écoute, on s'entraide et surtout, on comprend ce que l'autre traverse. Au micro de Repartons, vous allez entendre la voix de celles qui font vivre l'association, mais aussi les témoignages poignants de 3 participantes. Elles nous ouvrent les portes de leur quotidien et de cette convention qui, le temps d'un week-end, leur a permis de se sentir moins seules. C'est un voyage au cœur de la résilience. Repartons, c'est maintenant. Attention, certains propos peuvent heurter la sensibilité des personnes les plus sensibles.
Bonjour mesdames, donc vous êtes les organisatrices de cette convention. C'est une convention qui a duré 2 jours, samedi, dimanche. Toutes les personnes de France qui sont adhérents à l'association sont invitées.
Oui.
Donc il y a des gens qui venaient d'où au plus loin?
De hier, hein, Biarritz. On a eu aussi des gens de Lille, Brest, plus éloignés, les Ardennes, oui.
J'ai cru voir qu'il y avait beaucoup plus de femmes. C'est une maladie dite plus féminine.
D'habitude, dans l'association anorexique boulimique anonyme, c'est plutôt 3/4 de femmes, un quart d'hommes. Là, en l'occurrence, ce week-end, il y avait carrément plus de femmes. C'est assez symptomatique parce qu'on dit dans la société que c'est plutôt une maladie de femmes. Et les hommes, ça va être une maladie pour laquelle ça va être beaucoup plus caché, où ils vont beaucoup plus compenser par le sport. Ça va être moins facile de s'assumer comme anorexique et boulimique quand on est un homme, mais plutôt d'avoir une addiction au sport ou à d'autres substances.
Alors pourquoi organiser ces conventions tous les ans?
Pour qu'on puisse se réunir et puis faire ce fameux cocon de bienveillance. C'est important qu'on se comprenne, en fait, enfin, de se sentir entendu, compris. On peut dire ce qu'on veut, c'est vraiment... j'appelle ça la safe place.
Dans beaucoup de zones de France, il y a des réunions uniquement distancielles. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un groupe en présentiel, et là c'est vraiment un moment où tout le monde peut se retrouver en chair et en os, et c'est important aussi dans la relation, dans les partages et les échanges.
Il y a aussi des sujets qui ne sont pas forcément abordés habituellement lors des réunions.
Si, si, tous les sujets sont abordés pendant les réunions, sauf que là, effectivement, on est plus nombreux, il y a des passages qui sont complètement différents, des personnes qu'on ne connaît pas forcément, avec lesquelles on n'a pas forcément de lien le reste de l'année. Et puis c'est aussi des temps, les temps en dehors des réunions qui sont importants, où on peut créer du lien, on peut discuter. Son partage pendant la réunion, ça m'intéressait, je vais aller la voir, discuter avec elle, essayer de comprendre comment elle a fait, parce que j'ai le même problème actuellement, je travaille sur la même difficulté, et ça permet de partager avec d'autres personnes.
Et donc, lors de cette convention, justement, ces liens hors réunion ont été encore plus suggérés, dans le sens où il y avait un temps repas ensemble. Alors j'imagine qu'il y avait des adhérentes, adhérents qui ont eu peut-être une appréhension face à ce repas tous ensemble. C'était fait exprès ?
Oui, l'idée c'est vraiment de pouvoir réapprendre à vivre comme tout le monde et de pouvoir faire un restaurant, faire une soirée festive. Comme la réunion de ce matin, de dimanche matin, il y avait beaucoup de personnes qui ont témoigné du fait que ces maladies font qu'on n'est pas vraiment dans la vie, qu'on est un peu en mode survie. Et donc de refaire une soirée festive où ça chante, ça danse, de manger normalement, une alimentation normale, ni complètement aseptisée, ni en énorme quantité, ça permet de juste d'être dans la vie, quoi.
Et puis ça crée une espèce de bulle, là, le temps d'un week-end, de se retrouver rien que pour soi, mais pourtant en collectivité, ça crée cette bulle d'amour. C'est une convention qui est proposée tous les ans.
Non. En ABA, il y a les conventions, donc c'est régional où c'est les groupes qui organisent et qui proposent. Donc là, c'était nous cette année. L'année dernière, c'était à Saint-Brieuc au mois de février. Il va y en avoir certainement une en septembre à Biarritz. Mais ça demande beaucoup, beaucoup de travail. Voilà, c'est pas tous les ans parce que ça demande beaucoup d'investissement des amis. Donc ça, c'est des conventions régionales. Et puis, il y a un congrès national, une fois par an, où c'est organisé par l'association ABA nationale, qui, cette année, c'est à Sanary-sur-Mer. L'année dernière, c'était à Lille. L'année d'avant, c'était à Grenoble.
Pour être organisatrice, pour être un petit peu en haut de l'association, il faut d'abord avoir été adhérente, il faut être soi-même souffrante de ces troubles du comportement alimentaire.
Oui. Vous parlez d'adhérente, mais il n'y a pas besoin d'adhérer dans cette association. C'est un peu la particularité. En fait, on vient et après, chacun peut donner dans un chapeau qui tourne à la fin de la réunion pour financer la salle, financer le téléphone qui permet de pouvoir décrocher aux personnes qui ont besoin d'infos. Tout le monde peut vraiment venir. Et là, ce week-end, donc, c'était ouvert à tout le monde, y compris les proches et les professionnels, pour bien comprendre ce qu'est l'association.
Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a plus de monde et est-ce qu'il y aurait de plus en plus de personnes souffrantes qui seraient de plus en plus jeunes ?
Je ne suis pas sûre qu'il y ait de plus en plus de personnes souffrantes ou de plus en plus jeunes, si ce n'est qu'on commence à en parler de plus en plus, donc on découvre des personnes qui en parlent, de plus en plus jeunes et peut-être de plus en plus nombreuses, mais ces personnes-là, pour moi, étaient déjà malades avant. Un petit conseil que j'aurais à leur donner, je me rappelle, moi, d'avoir trouvé dans mes recherches le numéro de téléphone d'ABA, d'avoir appelé... peu sûr de moi, vraiment n'ayant pas forcément envie de le faire. Et la première fois que j'ai poussé la porte d'ABA, c'était très difficile pour moi. J'étais mal à l'aise pendant la première réunion, peut-être même la deuxième, la troisième, pendant un bon mois. Je pense que je me suis posé la question. Seulement, depuis que j'ai poussé la porte, j'ai continué à pousser la porte toujours. Et j'y ai trouvé quelque chose que je n'aurais pas trouvé ailleurs. Des partages d'expériences, de l'aide, de l'espoir. On n'est jamais jugé, c'est bienveillant. C'est des moments de bien-être, donc je conseillerais à toute personne qui a envie de vivre bien avec sa nourriture et de franchir la porte des ABA ou de composer le numéro des ABA, parce que voilà, c'est vraiment quelque chose de super.
Puis l'avantage de ces réunions, c'est que on n'a pas besoin d'expliquer ce qu'on vit, puisque toutes les personnes qui sont là vivent la même chose ou des choses similaires. Et moi, je me souviens, les premières réunions, j'ai passé mes deux, trois premières réunions à pleurer. C'était la première fois où je n'étais pas dans le déni, où je pouvais dire ce qui m'était arrivé. Et surtout, c'était les premières réunions, c'était les premières heures et demie dans ma semaine où je ne pensais pas à la nourriture depuis plus de 20 ans. Et là, je me suis dit, ah ouais, c'est possible, pendant une heure et demie, c'est peut-être possible plus longtemps, quoi.
Oui, parce que finalement, le symptôme de cette maladie aussi, c'est que la nourriture, là, devient une obsession.
Oui. Enfin, pour moi, oui, ça a été du lever au matin, au coucher le soir et même la nuit, si je me levais pour manger. Je ne pensais qu'à ça. Dès que je me levais, qu'est-ce que je vais manger, où est-ce que je vais manger, quand est-ce que je vais pouvoir manger.
Est-ce qu'on peut dire alors que là, la nourriture est un ennemi, son ennemi?
La nourriture avait pris la maîtrise de ma vie. Je n'avais plus la maîtrise de ma vie. C'était la nourriture qui décidait tout pour moi.
C'était quelque chose qui pouvait être néfaste. Ça pouvait être l'outil pour détruire, non?
C'est pas la nourriture en elle-même, c'est notre rapport avec la nourriture. C'est ce qu'on en a fait, et pas en pleine conscience, hein, forcément, au contraire. Mais on peut pas dire que ce soit la nourriture, c'est la maladie.
Je dirais que même la nourriture, elle m'a sûrement sauvée à un moment dans ma vie. Elle m'a sûrement permis de pouvoir gérer des émotions, de pouvoir gérer des situations. Donc j'ai utilisé cette technique comme d'autres utilisent l'alcool ou la drogue ou les jeux, voilà. Mais à un moment, ça m'a desservie parce que c'est devenu automatique.
Je sais que lors de la lecture des étapes, il y avait beaucoup de dieux qui étaient cités. Qui est Dieu pour Abba?
Dieu, c'est comme chacun de nous l'entend. C'est plus spirituel dans le sens où il y a une puissance supérieure, mais c'est ce qu'on ne contrôle pas en fait. Moi personnellement, c'est mon grand-père qui est décédé. C'est mon étoile.
En fait, pendant la maladie, je ne suis pas sûre qu'on ait conscience que la nourriture, c'est notre ennemi. Pendant la maladie, avant d'avoir pris conscience qu'on est malade, l'alimentation est notre besoin, on dit souvent qu'elle est très puissante, très sournoise, parce qu'on la considère plutôt comme un allié, avec ou sans, selon sa maladie. Et c'est justement en franchissant la porte d'Abéa et en rencontrant les autres et leur partage, qu'on comprend que la nourriture est bien plus puissante que nous. Et je pense que pour nous aider, c'est comme ça que je le comprends en tout cas, on a besoin de savoir qu'il y a une puissance supérieure, quelle qu'elle soit. Moi, ça va être mes petites fées sur mon épaule du groupe. Chacun y voit ce qu'il y voit, mais en tout cas, ça permet d'amenuiser la puissance de la nourriture, en fait. On donne une autre puissance.
Moi, c'est un mot qui a été difficile aussi au début d'un temps, parce que moi, je suis complètement athée, et je me suis dit au départ, tiens, c'est bizarre, effectivement, pourquoi le mot Dieu apparaît beaucoup, et j'étais pas très à l'aise avec ça, et en fait, ça ne pose aucun problème, parce qu'effectivement, on y met ce qu'on a envie dedans, et moi, là, aujourd'hui, après un an et demi d'ABA, je dirais que Dieu, c'est les réunions du mardi soir, les partages, les conventions, les congrès, le groupe, la littérature, les outils, enfin voilà.
Est-ce que vous entendez, mais en cas de crise d'anorexie, est-ce que pourquoi tout simplement tu ne manges pas? Comme s'il suffisait, comme si c'était juste une volonté. Vous l'entendez encore ça?
Moi je l'entends plus depuis que je suis chez ABA. Parce que je crois que le fait d'avoir pour la première fois pu exprimer, parce que c'est ça dont on parle quand on franchit la porte d'ABA, on parle de choses qu'on n'a jamais parlé à personne. Moi, j'ai su cacher ma maladie pendant 40 ans, à même mes conjoints. Le fait d'avoir libéré la parole dans le groupe m'a permis aussi de l'expliquer aux extérieurs, parce que j'ai trouvé ça tellement extraordinaire que je voulais que tout le monde le sache. Et les gens disent, mais non, t'es pas malade, mais non, regarde, tu manges comme nous. Oui, mais tu le sais pas parce que t'es pas malade. Tout comme un alcoolique, on ne se rend pas compte de la problématique, il suffit d'arrêter de boire ou d'aller dans un bar. Mais non, en fait, parce qu'il y a une sollicitation permanente avec leur maladie qu'on ne voit pas quand on n'est pas malade. Et avec le témoignage de cette matinée, du conjoint d'une amie, il a bien dit, je suis ignorant, j'en sais plus qu'hier, moins que demain. Et en fait, quand on n'est pas malade, on ne peut pas se rendre compte. C'est impossible. Et c'est la force de notre groupe, c'est que nous, un regard, un sourire, un mouchoir, nous permet de se comprendre et en un mot, un geste, ça suffit.
C'est vrai que j'ai trouvé son intervention
très pertinente, très touchante. D'ailleurs, c'est grâce à lui que j'ai eu envie de poser cette question. Parce que c'est vrai qu'en effet, des gens ne le comprennent pas tant qu'ils ne le vivent pas. Et on a toujours envie de dire, mais ton corps, aime-le, mais cette nourriture, mange-la si t'as besoin. Écoute, enfin bon, on se fait des idées comme si tout était facile. Et en fin de compte, c'est vrai que quand on est un proche de personnes souffrantes, il faut apprendre, comme il a dit, chaque jour, un peu plus sur cette maladie qui est complexe, parce que c'est pas que physique, c'est une maladie qui est mentale, car elle impose beaucoup de, je crois, de dépression, enfin de déprime, d'angoisse, de doute, de désespoir. C'est vrai qu'on parlait de l'alimentation, c'est vrai qu'on parlait de notre relation à l'alimentation, mais peu de la relation au corps, je crois, est quand même essentiel. Surtout, par exemple, pour les anorexiques qui se trouvent souvent grosses. Est-ce que vous diriez que cette relation au corps, c'est ce que vous apprenez aussi ici, à l'accepter un peu plus?
Là, on commence par balance ta balance, déjà, c'est le premier point, avant toute chose. C'est-à-dire qu'en fait, on est là pour se rétablir. Moi, je dirais dépression, etc. Je me retrouve pas dans ce que vous dites, pardon. Moi, je dirais plutôt qu'on est dans la maladie des émotions. On vit des émotions décuplées. On est très sensible aux autres, à soi et à ce qu'on ressent.
On remet toujours à demain les choses.
Quelles choses?
Ben, ça peut être tout dans la vie de tous les jours. Ça peut être une corvée, ça peut être manger, ça peut être n'importe quoi.
Et donc votre relation au corps?
Bon, moi, perso, je me trouve dégueulasse, mais...
Et ça joue, ça influence sur votre maladie?
Bah oui, un peu.
Et est-ce que c'est le cas de tout le monde?
Oui. Moi, je me trouve trop mince, excusez-moi. Je me cache derrière un tronc d'arbre, on va pas.
Parce que la relation au corps, en fait, elle influence forcément.
Ouais, moi, en fait, c'est que quand je me suis rendu compte que j'avais un problème avec la nourriture, j'ai voulu faire en sorte que mon corps corresponde à ce que je souhaitais. Donc, j'ai essayé de le modeler comme je le souhaitais. Et ce que j'ai découvert en poussant à la porte de l'association anorexique boulimique anonyme, c'est que les gens qui étaient assis autour des tables, en fait, ils étaient complètement banals, normaux. Qu'il n'y avait pas des gens avec des sondes qui faisaient 30 kilos ou des gens qui faisaient 200 kilos et qui pouvaient plus se déplacer tellement ils étaient gros. En fait, il n'y avait personne qui était comme ça. Et que même si j'avais croisé ces personnes dans la rue, jamais je me serais dit qu'elles seraient malades. Et ça, ça m'a permis d'accepter que c'était avant tout l'anorexie et la boulimie une maladie mentale, que c'est souvent traité quand le corps ne va pas bien, donc médicalement, voilà, les soins vraiment physiques en cas de très grave danger. Mais nous, l'association anorexique boulimique anonyme, on travaille vraiment sur changer notre état d'esprit, parce que c'est bien là-haut que ça déconne dans un premier temps. Et après, le corps, il s'adapte. Et donc, quand tu disais balance ta balance, ben oui, parce que si j'essaye de contrôler ce que j'ai dans la tête en contrôlant mon corps, ça va jamais marcher, en fait. Et donc, il s'agit vraiment de prendre soin de ma tête. Et après, le corps, il suit, quoi.
La nourriture, c'est pour beaucoup d'entre nous, c'est juste, c'est ce qu'on dit en réunion, c'est l'arbre qui cache la forêt. En fait, quand on a réussi à avoir à obtenir la sobriété alimentaire, c'est-à-dire à arrêter de faire des crises ou en plus ou en moins de nourriture, on découvre, comme on a pu me le dire au début, mon cerveau il est branché à l'envers. Je réagis pas comme les autres. Je réagis quand je pense qu'il faut que j'accepte quelque chose, normalement il faudrait que j'agisse, ou quand je me dis oh, faut que j'agisse, faut que je fasse quelque chose, non, pour le moment agis pas, pose-toi. Comprends ce qui t'arrive avant. Mon cerveau, il est branché à l'envers et je suis malade. Et c'est pour ça qu'on parle d'une maladie mentale. Le rapport au corps... Moi, aujourd'hui, j'ai plus problème de rapport au corps. Je sais que depuis quelques mois, j'ai repris du poids. Je le vois dans mes vêtements, je le sens. Mais c'est pas grave, hein, parce que je vais bien dans ma tête. C'est pas un problème pour moi aujourd'hui. Ça l'a été Ça, je ne le nie pas, ça l'a été parce que le regard de l'extérieur, le regard de la société aussi m'imposait, et parce que je voulais bien m'y conformer. Mais aujourd'hui, voilà, si quelqu'un me dit, ouais, t'as un gros cul, bah oui, c'est mon cul, quoi. Et lui, il va bien, et je m'assieds dans ma chaise, et tout va bien. Voilà, c'est aujourd'hui, j'en suis là, quoi.
Quelle belle réponse. Oui, vraiment.
Moi, je sens un truc. Pour les gens qui se posent la question de savoir s'ils sont concernés ou pas, les réunions ABA sont ouvertes à tous au moins une fois par mois en visio. Chez nous, par exemple, c'est le mardi et c'est le premier mardi du mois à Évreux. Peut-être qu'ils ne seront pas concernés, c'est pas grave, mais peut-être qu'ils peuvent connaître des gens qui sont concernés. Et le but, c'est surtout de transmettre le message, parce que ce qu'on entend partout quand on fait de l'info publique, c'est vraiment que les gens se sentent très seuls, sont persuadés d'être tout seuls, à être dans cet enfer. Et non, pas du tout. On est très nombreux et on est vraiment tous là les uns pour les autres.
En fait, je fais des crises de boulimie. J'ai longtemps cru que je n'étais pas anorexique puisque mon corps ne me montre pas que je suis anorexique. Ce que les médias disent des anorexiques ne correspond pas à ce que je ressens. Et en fait, quand je fais des crises de boulimie, effectivement, je suis ensuite une crise d'anorexie. Je ne mange pas pendant une journée. Et je reprends le lendemain et je redéclenche une crise puisque j'ai faim. Et je remange pas le jour suivant. C'est en fonction de mes émotions. Quand je vais bien, j'oublie de manger. Quand je vais mal, je me déconnecte mon cerveau. Et le fait de manger me permet de plus réfléchir en fait. Je mets ma main dans le paquet de n'importe quoi, qui se mange très rapidement, qui est pas nutritif et qui me permet juste de m'évader et de ne plus rien penser. Mon péché mignon, ça va être ce que j'ai longtemps dit, c'est les gâteaux apéritifs, c'est vrai, mais j'ai besoin d'alterner sucré-salé. En fait, au bout d'un moment, le salé est trop, donc je prends du sucré, je reprends du salé, je reprends du sucré, j'alterne en fait. Comme si je faisais un repas, sauf que c'est pas un repas, c'est 4-12 repas. On m'a demandé d'analyser un petit peu la sensation que j'avais avant les crises, c'était très compliqué. Parce qu'en fait, à ce moment-là, ça devient un instinct que je traîne depuis plus de 40 ans aujourd'hui. Mon ventre devient un grand vide intérieur. C'est pas parce que j'ai manger une pomme que ça va remplir, c'est pas parce que je vais manger un plat de pâtes que je vais me remplir, c'est vraiment des quantités astronomiques jusqu'à ne plus pouvoir bouger en fait, avoir mal, et là je me sens remplie. Je me sens remplie dans mon estomac, mon corps est plein, ne peut plus rien prendre, et je pense y compris les émotions en fait. Moi j'ai plutôt tendance à dire que je mange émotionnel. Je mange pas pour me nourrir, je mange mes émotions. Si elles sont positives, je n'ai pas besoin de manger, je suis remplie d'énergie positive. Quand c'est beaucoup négatif, à ce moment-là, c'est une façon pour moi d'évacuer le négatif, c'est-à-dire que je me remplis et il n'y a plus de place pour penser, en fait, le cerveau s'évade. J'ai fait une fois une réunion ABA en ayant fait une crise juste avant. Et ça a été, j'aurais trouvé toutes les excuses de la terre, il pleut, il fait nuit, j'ai pas envie, quelle excuse je vais pouvoir trouver. En fait, mes amis m'attendent, ils comptent sur moi. J'y suis allée en ayant fait une crise et ça a été très compliqué pour moi de réfléchir à ce que je ressens parce qu'à ce moment-là, je ne ressens plus rien en fait, je suis comme vide. Alors rempli et vide à la fois, voilà, vide du cerveau et rempli du corps. Finalement, ça m'a permis de poser des choses, des émotions et pourquoi je l'ai fait. Ce jour-là, j'ai dit ok, plus jamais. Je ne veux plus jamais revivre cette sensation de devoir expliquer un moment où normalement je suis toute seule, personne ne le sait, personne ne le voit, je l'ai caché à tout le monde, ma famille, mes amis, mes conjoints. Là j'étais un livre ouvert et il n'y avait qu'avec mes amis que je pouvais partager ça, sans jugement, avec beaucoup de compréhension, beaucoup de bienveillance. Le corps n'a rien à voir, je ne suis pas complexée. J'ai mis du temps à me voir grosse déjà, parce que pour moi j'étais maigre, donc tout allait bien, je me mettais derrière un poteau, on ne voyait pas. Maintenant j'ai compris grâce aux ABA qu'en fait c'était de l'émotion, je me suis retrouvée. C'est-à-dire que ce qu'on dit souvent en réunion, comme vous avez pu assister à l'instant, c'est on parle beaucoup de nos émotions, de notre ressenti, et en fait c'est juste un facteur. On a un problème, et un des effets du problème, c'est la nourriture. Mais il y a plein d'autres choses en fait dans nos relations à l'autre. Même si on n'est pas concerné, on se sent concerné quand même. On est très auto-centré, trop je pense, parce qu'il y a plein de moments où en fait on croit qu'on est la cible. On est à fleur de peau. Oui, il y a une notion de destruction, il y a une notion de s'effacer. L'autre nous amène des émotions. La meilleure période de ma vie où j'ai fait aucune crise, c'était le Covid. Alors, on a tous vécu des choses différentes. Moi, j'étais chez moi, toute seule, j'étais bien. J'avais pas de contraintes extérieures, du téléphone, mais je choisissais de répondre ou pas. on ne pouvait pas venir me voir à l'improviste, m'imposer des émotions, m'imposer des amis qui viennent se confier de choses que je ne suis pas forcément prête à entendre moi-même. J'ai été beaucoup plus légère. Moi, ça a été vraiment une respiration dans ma vie. Le Covid, c'est 3 mois d'arrêt où j'ai choisi qui j'avais au téléphone, qui je voyais. Je suis rentrée aux Abbés en juillet 2025. J'ai une vie de famille assez compliquée. Je pense qu'effectivement, on a forcément un peu de trauma qui nous amène à avoir ce sentiment d'abandon. Moi, je vais plutôt parler de masques qu'on met tout au long de notre vie. On met des masques à nos parents pour qu'ils aient l'enfant qu'ils ont envie d'avoir. On met un masque pour la maîtresse à qui on veut faire plaisir, à avoir des bonnes notes. On met des masques pour nos amis, pour leur plaire et les garder. Et à Béa, c'est le premier endroit où je n'ai mis aucun masque. J'ai retrouvé mon moi intérieur. J'ai fait beaucoup de travail en parallèle, l'hypnose, la psychologie. J'ai eu une fois des courses de crise. Alors, je connais tous les magasins qui sont ouverts à n'importe quelle heure sur ma ville. Un jour, j'ai un monsieur qui m'a dit « Oh, vous avez besoin de réconfort ». Et je lui ai dit « Non, non, j'ai plein d'ados qui arrivent à la maison dans une demi-heure, apéro improvisé. Ah là là, eux, ils ramènent les boissons et moi, je m'occupe de la nourriture ». Je ne suis plus jamais retournée dans ce magasin parce que j'étais démasquée. Comme le parcours des alcooliques, on a beaucoup de points communs. On ne fait jamais les courses au même endroit. On cherche à ne jamais avoir la même caissière de manière à jamais pouvoir être identifié que tout ce qu'on met dans le panier, c'est pour nous. Par exemple, quand je vais dans un fast-food, qui est aussi un aliment crise pour moi, je vais prendre 2 menus parce que je vais faire croire qu'on est 2. Parce que je n'ai pas le droit de manger un fast-food toute seule. J'ai peur d'être démasquée, donc je vais prendre 1, 2, 3 menus peut-être. Et on s'invente comme ça une espèce de vie où en fait tout le monde s'en fout peut-être, où nous sommes déjà démasqués, je ne sais pas. L'anorexie, je l'ai découvert aux Abbés. Je ne comprenais pas quand on disait « bonjour, je suis boulimique, anorexique ». Non, moi je suis hyperphagique, c'est diagnostiqué, sauf qu'ici on n'est pas chez un médecin. À force d'écouter les témoignages, j'ai fini par intégrer que oui, je suis anorexique aussi parce qu'un lendemain de crise, je ne mange pas. J'applique la méthode depuis le 4 décembre à la perfection, je pense, j'espère. Je le note en rouge quand j'ai oublié un plan de repas, effectivement, un plan de journée. Là, j'ai fait une crise de boulimie. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Et je m'en souviens pas souvent. Ah oui, non, mais j'ai pas mangé hier. Ok, anorexie. Ok, ben ça, plus jamais. Bien sûr, il y a une honte. Moi, j'ai des amis à qui j'ai commencé à en parler puisque la parole se libère et j'ai envie de transmettre parce que j'ai tellement galéré pour connaître ce mouvement que j'ai besoin de le transmettre. J'en ai parlé à mes amis qui m'ont dit « Mais on comprend pas, tu manges absolument normalement. Oui, tu sais pas que j'ai mangé un repas avant de venir, en fait. Histoire de manger comme toi. » J'ai commencé en juillet 2025 suite à ma nutritionniste qui m'a dit que bah, ça y est, je savais tout et que maintenant, c'était à moi de faire. Et que si je faisais, bah, ça marcherait, je perdrais du poids, puisqu'au départ, je viens pour perdre du poids. Aujourd'hui, je m'en fous. C'est pas ça qui est important pour moi. C'est pas la perte de poids, en vrai. Et elle m'a dit, soit tu le fais et tu y arrives, soit tu le fais pas et tu continues de grossir ou tu restes comme tu es. C'est à toi de jouer. J'ai adoré cette phrase aussi parce que j'aime bien les gens qui me rentrent un petit peu dedans. Je pense que ça fait partie de ma maladie. J'aime bien les gens qui poussent un peu dans les retranchements. Je me fais du mal, en fait, hein, quand j'accepte ça des autres, mais c'est comme ça. Je l'accepte. À ce moment-là, j'ai eu la joie qu'elle me dise les choses en face. Et à la fois, quand je suis sortie, j'étais au bord du ravin, imagée bien sûr, même si pour certains, c'est des drames. J'ai eu la sensation d'être au bord du ravin, de ne plus avoir de solution. Et maintenant, qu'est-ce que je fais, quoi? Parce que si même elle n'y arrive pas, si même elle n'arrive pas à me donner les outils, à me convaincre que malgré que j'ai puisse avoir des problèmes de santé et que je sais que je mets ma vie en danger, etc., etc., j'y arrive pas, donc je suis nulle. Et j'ai fini par tomber sur Internet. Je suis tombée sur une amie qui m'a dit... Enfin, je me suis présentée en disant « Je suis désolée de vous déranger, excusez-moi, vraiment. Voilà, j'ai vu votre association, voilà, mais je vous préviens, hein, moi, je suis plutôt âgée, j'ai l'impression que c'est depuis longtemps, et puis personne n'a de solution. » Et là, elle me dit « On a réunion ce soir, on t'attend. » Waouh. Alors, quand on vous attend, on est obligé de venir. Pas le choix. Et donc, je suis venue. J'ai eu un accueil exceptionnel. J'ai jamais rencontré autant une bulle. Là, c'est dur aujourd'hui parce que c'est le dernier jour, c'est la fin de la bulle, en fait. La bulle de ce week-end où on est tous en bienveillance, on se comprend tous, on n'a pas de jugement. On a même eu un témoin qui était le mari d'une amie, qui a fait un témoignage exceptionnel en disant qu'il ne savait pas, il ne comprenait pas et qu'il était ignorant et c'était très beau. Et c'était hyper touchant parce qu'on le vit tous en fait, notre famille ne le comprend pas, les amis ne le comprennent pas et c'est normal parce que quand on n'est pas malade, on ne peut pas comprendre. Je suis plutôt en sobriété depuis le 4 décembre. Je suis en sobriété parce que j'ai besoin d'appliquer la méthode et je crois que ce sera toute ma vie. Et c'est pas grave, j'accepte. J'ai trouvé mon moment, je me donne un moment tous les jours, avant de me coucher, au réveil. Le dîner hier, Ben, j'ai adoré, en fait. Chacun a une attitude, passe à son assiette. Personne ne juge. Donc finalement, chacun fait ce qu'il veut. S'il a envie de se resservir deux fois, c'est pas grave. S'il a envie de laisser son assiette, c'est pas grave. Et l'essentiel, c'est de juste être ensemble. Je suis entre gens bienveillants, tout va bien. On a fait un joli karaoké, très bien animé. Tout le monde s'est porté volontaire pour chanter, ce qui n'est pas forcément évident, en plus dans notre maladie. Moi, la première, hein, j'ai chanté hier. Je ne fais jamais de karaoké, j'ai un peu honte de comment je chante. Et je me suis dit, ouais, non, mais je suis ABA, là. Donc, pour ABA, il faut que je le fasse. Je vais choisir une chanson rigolote. Je vais y aller avec trois amis, on va rigoler ensemble. Et c'était cool, on s'est amusé, c'était chouette. Et je ne le referai plus jamais dans une autre vie. Juste ici. Quand on ne sait pas ce qu'on a, ça ne coûte rien de franchir la porte. Pourquoi ? Parce que des fois, on peut sentir qu'on a un problème, par exemple, pour les AA, les alcooliques anonymes, pardon. On a les dépressifs anonymes, on a plein de fraternités, finalement. On franchit une porte, mais on rentre dans un univers complètement. Je constate, nous, on fait beaucoup d'interventions au